joie d'être avec vous. Merci aussi à toute l'Église, parce que vous faites partie des églises qui soutiennent notre ministère. Et donc, on est reconnaissant aussi pour votre soutien qui nous permet de continuer. JL me dit, tu peux aussi donner des nouvelles. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais nous sommes réjouis de voir l'Évangile qui avance. À Saint-Étienne, nous travaillons encore localement avec l'église CAEF, donc, qui est dans le quartier de la Terrasse, au nord de Saint-Étienne. Et puis, j'accompagne aussi, depuis maintenant 3 ans, une implantation d'église qui a démarré depuis cette église à Issingeaux, donc entre Saint-Étienne et Le Puy, dans la Haute-Loire, où nous voyons là aussi l'Évangile qui progresse et qui avance. Pour une part de mon temps, je travaille avec le réseau FEF, dont vous faites partie, et puis avec le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France. Au niveau des réseaux FEF, un de nos gros défis en ce moment, c'est comment développer des collaborations entre toutes les églises et les unions qui ont une même confession de foi pour le progrès de l'Évangile. On croit que malheureusement, même si nous reconnaissons la pleine ecclésialité, c'est-à-dire que chaque église locale est pleinement église, et bien que souvent le fait qu'on soit un petit peu chacun de notre côté a tendance, lorsqu'on s'intéresse notamment à la mission, à diminuer un petit peu les capacités qu'on pourrait donner, parce qu'on a beaucoup de doublons, beaucoup de choses qui sont faites sans réflexion, et on porte souvent parfois les mêmes combats, mais sans les traiter ensemble. Et donc du coup, on prie que Dieu nous unisse, développe des collaborations et qu'on soit plus efficace dans ce pays de France. Et puis avec le CNEF, je porte la vision pour la mission, ce qu'on a appelé l'élan missionnel du CNEF. Si vous ne l'avez pas encore eu, je vous encourage un jour à aller sur le site du CNEF et vous verrez, il y a un petit onglet en haut, Ensemble en mission, et vous pourrez lire notamment toute une vision qui a été signée aujourd'hui par l'ensemble des unions d'églises évangéliques en France, l'ensemble des œuvres, et qui vise à porter l'Évangile dans notre pays et au-delà. Et donc c'est moi qui suis en charge de porter ce mouvement, donc voilà, il y a un peu de travail, priez pour nous, que Dieu nous renouvelle, qu'il nous conduise, et puis surtout qu'il souffle dans notre pays. Nous prions pour qu'il y ait un réveil, pour que Dieu nous trouve à l'œuvre. Vous verrez que dans le texte que nous avons écrit, le texte termine par la prière. Je citerai tout à l'heure quelques extraits, mais voilà, un appel à prier pour que Dieu intervienne dans notre génération. On vient de chanter tout à l'heure ce très beau chant, Christ est la lumière du monde. Et vous avez sans doute noté ces versets, les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Et j'espère que c'est votre profond désir. En tout cas, moi, c'est le mien. J'ai eu la chance à plusieurs reprises dans mon ministère d'être parfois au contact de chrétiens de toutes les nations. Encore il y a 2 semaines, j'étais en Corée pour le 4e congrès du mouvement de Lausanne. Peut-être vous en avez entendu parler. On était une 60aine de Français là-bas. Et on avait 5000 chrétiens de plus de 200 pays. Et donc, je peux dire, ce texte se réalise déjà partiellement. Il n'y a pas toutes les nations. Vous savez que le mot grec dans la Bible pour les nations, ça désigne les peuples. Et on ne peut pas dire encore que tous les peuples louent le Seigneur. En tout cas, dans nos pays, les peuples déjà louent le Seigneur. Et cela devrait nous réjouir. C'est en train de se faire et ça va continuer à se faire. C'était à la fin de l'évangile de Luc, quand Jésus le ressuscité rencontre ses disciples. Dans Luc, au chapitre 24, les versets 46, il leur dit, il est écrit que le Fils de l'homme souffrirait, qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la bonne nouvelle serait prêchée en son nom à toutes les nations. Et 2000 ans après, on peut dire, c'est en train de se faire. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et la question qui se pose pour nous, c'est, mais comment est-ce que Jésus s'y prend depuis 2000 ans pour que cela se fasse? Et juste après avoir écrit ce chapitre 24 de son évangile, Luc a écrit un deuxième livre, le livre des Actes. Il nous raconte le début de comment Jésus s'y prend. Et c'est ces textes-là qu'on va regarder ce matin, dans le livre des Actes, à partir du chapitre 1. Et on va simplement regarder quelques morceaux choisis entre le chapitre 1 et le chapitre 6. Et l'idée, ça va être de suivre l'église de Jérusalem, qui est la première église que nous voyons. Et à cette époque-là, où c'était assez facile de réunir encore la multitude, puisqu'ils étaient à Jérusalem, très très vite, dès le chapitre 2, il y aura des croyants disséminés dans tout l'Empire romain, ces juifs qui étaient là à la Pentecôte. Mais en tout cas, jusqu'à acte 2, on arrivait encore à les mettre à peu près tous au même endroit, et il fallait les disperser. Et pourquoi je vous propose de regarder ces premiers chapitres? Parce que dans les premiers chapitres, nous voyons l'exemple d'une église qui a vécu avec ses forces, ses défis, ses faiblesses, la mission dans son temps au 1er siècle. Ce n'est pas simplement l'œuvre des humains comme nous, mais c'était l'œuvre du Seigneur lui-même. Si vous êtes un lecteur ou une lectrice attentive du livre des Actes, vous avez vu que Luc, au premier verset du chapitre 1, dit « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé. » Sous-entendu, dans mon deuxième livre, je vais continuer à parler de ce que Jésus continue de faire et d'enseigner depuis qu'il a été enlevé. Et quand nous lisons le livre des Actes, nous devons nous rappeler que même si on appelle ça les Actes des apôtres, en fait le nom est assez mal choisi. À partir du verset 1, on devrait dire « Ce sont les actes de Jésus-Christ, ressuscité, monté aux cieux, glorifié, qui siège sur le trône et qui est en train d'agir dans son Église par l'Esprit. » Comment Jésus s'y prend pour que toutes les nations, un jour de la terre, soient devant lui et disent « Ton nom est saint. » Comment est-ce qu'il s'y prend? Eh bien, il s'y prend au travers de nous. C'est incroyable, n'est-ce pas? Dieu n'a pas besoin de nous, mais il a choisi pour faire avancer sa mission d'avoir une communauté, une église, un peuple dans ce monde qui est rempli de l'Esprit et qui est chargé de porter l'Évangile sur toute la terre. Et ça veut dire que lorsque nous chantons « Un jour, toutes les nations de la terre diront « Ton nom est saint », à la fois, ça doit nous remplir de joie, comme tout à l'heure, quand on le chantait avec beaucoup de cœur. Et à la fois, c'est quelque chose qui devrait aussi nous donner une certaine tristesse que cette réalité ne soit pas encore là. C'est quelque chose aussi qui devrait nous saisir en nous disant, mais Seigneur, tu es en train de le faire et tu le fais par ton Église et donc par nous. Qu'est-ce que tu attends de nous? C'est tout le projet de Luc quand il écrit ce livre des Actes, c'est qu'il s'adresse au lecteur, à Théophile, qui était probablement un riche chrétien qui en fait était le mécène, c'est-à-dire quand il allait recevoir le manuscrit, en fait son travail, ça allait être de financer sa duplication, sa reproduction pour qu'il soit diffusé dans les églises. Et quel est le rôle de cet excellent Théophile, qui est sans doute un romain, un riche romain chrétien? C'est que lui-même, en lisant le livre des Actes et en comprenant ce que Jésus est en train de continuer à faire et enseigner, en fait, qu'il soit saisi et qu'il a envie de rejoindre le Christ dans son œuvre. Et c'est le projet pour chacun d'entre nous. C'est le projet de savoir comment cette église de Lyon, une partie de l'église qui est à Lyon, parce que Dieu travaille au-delà de ses murs, dans la ville de Lyon, comment cette église peut briller et être aligné sur le dessein de Dieu. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de voir quelques caractéristiques de cette église de Jérusalem et de se dire, mais Seigneur, inspire-nous, montre-nous comment nous, dans notre temps, nous pouvons briller dans cette ville comme eux ont brillé dans cette ville de Jérusalem. Au chapitre 1, juste avant l'ascension, Jésus a dit au verset 8, si vous suivez avec moi, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem d'abord, puis dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Luc déjà utilise l'ordre de Jésus pour annoncer ce qui va se passer. L'évangile ne va pas rester à Jérusalem, mais il va se répandre. Alors ça lui sert surtout de plan narratif pour le livre, parce que comme on le verra juste après, dès le chapitre 2, en fait, l'évangile va toucher les extrémités de la terre. Vous avez des juifs de toutes les nations qui sont à la Pentecôte. Ils vont repartir. Vous savez que notamment l'église de Rome est née sans apôtres, parce que des juifs qui étaient à la Pentecôte sont revenus. Et pour eux, ben, Jérusalem, c'était Rome. Et ils ont témoigné là-bas, et l'évangile s'est répandu. Mais on suit cette église. On arrive au chapitre 2. Et regardez ce que Luc nous dit. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et allèrent se poser sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment donc se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle, nous, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, des résidents venus de Rome, des Juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. N'est-ce pas incroyable? Les disciples visités par le Saint-Esprit qui se mettent à parler des merveilles de Dieu et qui tout à coup vont parler ensuite à ce peuple qui se demande ce qui est en train de se passer. La première chose sur laquelle Luc insiste quand il parle de l'église de Jérusalem, c'est que cette église est pleine. Elle est remplie. Elle est pleine, remplie du Saint-Esprit. C'est le premier critère de cette église qui est en mission. Les gens que nous avons, c'est des gens extrêmement ordinaires. C'est l'apôtre Pierre dont Jean-Lionel nous disait tout à l'heure qu'il parle trop vite. C'est ces gens qui, lorsque Jésus a été arrêté, l'ont trahi, l'ont renié, se sont tenus à distance de peur d'être arrêtés eux-mêmes. C'est ceux dont il est dit qu'ils étaient incapables de veiller une heure avec Jésus la nuit de sa crucifixion. Mais ce jour-là, alors qu'ils étaient là depuis l'ascension, assemblés, à prier ensemble, pendant une dizaine de jours, eh bien la Pentecôte arrive, le Saint-Esprit descend, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. C'est un événement qui est historique, évidemment, et dans nos milieux, on insiste sur le fait que c'est historique, et que depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est là, et donc je n'ai pas à chercher, si j'appartiens à Jésus, à être baptisé de l'Esprit, parce que lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, il est là, il a été répandu sur terre à la Pentecôte. Néanmoins, les gens qui étaient ici à vivre cela, eh bien on se rend compte que plusieurs d'entre eux ont vécu à plusieurs reprises des expériences similaires. Et si vous regardez par exemple dans Actes chapitre 4, et que vous êtes à la fin du chapitre, ils vont avoir vécu des tribulations, pardon, à la fin du... excusez-moi, oui, en Actes 4, ils ont vécu des tribulations. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez à partir du verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. » Ils vont continuer à prier. Et regardez ensuite à partir du verset 29. « Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. » Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, verset 31, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si la Pentecôte est historique, cet événement, lui, est un événement de circonstance. Une église persécutée dans la difficulté. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, Seigneur, tu nous as remplis à la Pentecôte. Et ça nous a donné l'audace de parler, et grâce à ça, nous avons vu toutes ces personnes se tourner vers toi. Mais maintenant, Seigneur, c'est difficile. On souffre, on est persécuté, les apôtres viennent d'être arrêtés, ils ont été libérés. Seigneur, nous avons besoin que tu nous remplisses à nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu intervient. Cette fois, c'est la terre qui tremble. Ils n'ont pas revu les flammes de feu. Je ne sais pas s'ils ont entendu le vent. La terre a tremblé. Et puis vous verrez plus tard, en Actes chapitre 6, quand ils vont passer à la deuxième génération de leaders dans l'église avec ces hommes, Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, et vous avez toute la liste. On a dit que c'était des diacres, le mot diacre n'est pas spécialement dans le texte, c'est plutôt des assistants des apôtres, c'est pas faux de les appeler diacres, mais c'était la seconde génération de leaders. C'est dit que c'était des hommes qui étaient pleins d'esprit. Et vous voyez l'apôtre Paul, ensuite plusieurs reprises, dans ses voyages missionnaires, il est en train de parler, il y a de l'opposition, et tout à coup, Paul rempli de l'Esprit. Ça veut dire que si ce qui se passe en acte 2 est unique, eh bien il y a un aspect où pourtant l'Esprit Saint se plaît à le répéter constamment dans la vie d'une église qui le cherche, pour que cette église soit pleine, remplie de l'Esprit. Et nous le voyons maintes et maintes fois dans l'histoire de l'Église. Nous étions avec les cadres d'union du réseau FEF ces trois derniers jours. Cette semaine, on a passé trois jours à prier et à réfléchir comment, Seigneur, tu peux développer tes collaborations entre nous. Et pendant deux soirs, on a écouté l'histoire des réveils. Et on s'est rappelé avec beaucoup de joie comment les moraves, et puis les piétistes, et puis les méthodistes avec John Wesley, plusieurs fois, ont vécu des moments comme ça où des chrétiens rassemblés ont prié, ils étaient disponibles, et le Saint-Esprit les a remplis, les a revêtus de sa puissance. Est-ce que c'est quelque chose d'automatique? Est-ce qu'à votre prochaine réunion de prière, vous allez vous retrouver et dire « Mais Seigneur, manifeste ta puissance et le bâtiment va se mettre à trembler » Peut-être, peut-être. En tout cas, nous devrions être disposés à cela. Ce n'est pas quelque chose qui se force. Les disciples n'étaient incapables de forcer quoi que ce soit. Jésus leur avait dit « Vous attendez, vous attendez ». Ça ne pouvait pas se forcer, mais ils pouvaient y être disponibles et de dire « Seigneur, nous avons besoin de toi ». Et c'est ce qu'on remarque dans l'histoire de l'Église et dans les réveils aujourd'hui, lorsqu'une Église se tient devant Dieu et dit « Seigneur, nous avons besoin de toi ». Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de notre propre manque de piété, de nos conflits, de nos divisions. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de l'état de l'humanité autour de nous. Nous ne pouvons pas. Les problèmes sont trop grands pour nous. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de notre timidité. Et nous commençons à faire la liste et nous disons, « Seigneur, si toi tu ne fais pas quelque chose, ça ne marchera pas. » Et la bonne nouvelle, c'est lorsque l'Église se tient devant Dieu avec cette attitude-là, sans orgueil, mais au contraire avec humilité, avec rien d'autre à offrir que nos mains vides, mendiant sa grâce, et bien là, oui, Dieu se plaît à renouveler en nous ce don du Saint-Esprit. Jésus l'avait dit dans Jean chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Et Jean disait, il disait cela de l'Esprit qui devait venir. Dans Luc, Jésus dira, « Mais si votre Père, si vous-même qui êtes méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père ne donnera-t-il pas, dans une version Matthieu, de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Et dans Luc, le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. La bonne chose par excellence, la présence même de Dieu avec nous, sa puissance dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr, nous avons tous le Saint-Esprit en nous. L'Esprit est présent ce matin au milieu de son Église parce que nous sommes rassemblés et qu'il vit dans chacun d'entre nous. Mais la question, c'est est-ce que son action, sa capacité à agir, à se manifester dans l'Église, peut être limitée parce que nos cœurs ne sont pas disponibles à l'accueillir autant que nous le devrions? On ne peut pas le forcer, mais on peut être disponible. De dire, Seigneur, prends plus de place dans nos vies, ranime notre zèle, ranime notre foi, suscite des nouveaux dons parmi nous, utilise-nous pour ta gloire, interviens pour que les gens autour de nous puissent voir, comprendre l'Évangile, pour que notre Église contribue à ce qu'un jour toutes les nations soient devant ton trône. Et lorsque l'Esprit intervient, acte 2 nous montre que l'Esprit Saint peut faire des choses étonnantes. Tout à coup, il y avait un souffle, il y avait du feu, il y avait des langues. On ne vit pas ça tous les jours. Et parfois, l'Esprit Saint fait des choses très étonnantes. Et puis, qu'est-ce que fait l'Esprit? Eh bien, il va élargir, ouvrir notre vision pour atteindre d'autres. Vous avez tous ces gens-là qui étaient autour, et à ce moment-là, ce sont encore tous des Juifs, mais des Juifs qui étaient dans les diasporas. Certains sont déjà déconvertis. Alors, c'est étonnant parce que on n'a pas encore l'impression que les païens soient dans l'Église, ils arriveront plus tard avec Corneille. Et néanmoins, il y a déjà une porosité vers les nations. Et c'est ce que l'Esprit se plaît à faire, à aider l'Église à traverser les barrières qui empêchent l'Évangile de se répandre. Et puis, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il va rapprocher le peuple de Dieu du cœur de Dieu. De telle sorte qu'en sortant de là, tout à coup, les apôtres parlent des merveilles de Dieu et les autres entendent dans toutes les langues. C'est comme si l'Esprit leur donnait une plus grande vision de Dieu. Et au même moment qu'il leur donne une plus grande vision de Dieu, il leur donne une plus grande passion pour Dieu. Et c'est ce qui fait que le même apôtre Pierre, lui qui disait « je ne te renierai pas » et qui la même nuit renia trois fois son maître, eh bien, tout à coup, il va devenir capable de prêcher devant cette foule et de dire « ce Jésus que vous avez crucifié, eh bien, Dieu l'a fait Seigneur, il vient de répandre le Saint-Esprit, c'est ce que vous voyez, et maintenant vous devez l'accueillir, vous tous, mais aussi ceux qui sont au loin. » C'est ce qui fait que ce même Pierre, quand il sera ensuite arrêté et qu'il sortira de prison, on dira mais pourquoi tu continues ?» Actes chapitre 4, il dira « mais je ne peux pas me taire. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel on puisse être sauvé. On ne va pas se taire, on va continuer. » Quel changement, n'est-ce pas? Plus grande vision de Dieu, plus grande passion pour Dieu. Et qu'est-ce que va faire l'Esprit? Eh bien, souvent, il va diviser ceux qui sont témoins de son œuvre. Et c'est pour ça que vous avez à la fin autant des gens qui sont sauvés que d'autres qui vont manifester de l'opposition et qui, de ce fait, se trouvent sous le jugement de Dieu. À tel point que l'apôtre Paul, à la fin du livre des Actes, dans Actes 28, dira à certains juifs qui s'endurcissent encore, « Mais le prophète a bien parlé de vous. Je fermerai vos oreilles afin qu'ils n'entendent pas, vos yeux afin qu'ils ne voient pas. » Et ils étaient en train de s'endurcir. L'Esprit sauve d'un côté, endurcit les autres. On le voit très souvent lorsque l'Évangile avance. Je lisais ce matin un extrait de la vie de Wesley. Et John Wesley racontait qu'à son époque, les autorités religieuses qui n'aimaient pas ce qui se passait parce qu'ils parlaient aux masses, eh bien parfois ont même payé des ivrognes pour venir perturber ces réunions d'évangélisation. C'est incroyable, n'est-ce pas? Parfois, on a lâché le taureau le plus méchant sur la foule qui était en train de l'écouter. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Et voilà, l'Esprit Saint à la fois sauve, il y avait des gens en foule qui écoutaient. Et en même temps, il y avait de l'opposition, des gens qui n'étaient pas prêts à accueillir ce que Dieu voulait faire. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il illumine l'Écriture, et du coup, les cœurs vont croire. Il sauve et il ressuscite les morts, et le nouveau temple de Dieu est bâti. Est-ce que nos églises sont pleines du Saint-Esprit? Après 3 jours de prière avec les dirigeants du réseau FEF, où on était dans Ézéchiel chapitre 36 et 37, ces versets qui nous parlent de la promesse de l'Esprit qui doit venir, on s'est retrouvés, et puis il y a Pierre Barito qui était devant, que vous connaissez bien, on parlait du prochain texte qu'on va écrire ensemble à toutes nos unions. Et Pierre a dit, mais est-ce qu'on ose mettre dans le texte que sans Dieu, ça ne se fera pas et que nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre pays pour toucher les cœurs de son Église et que nous voyons une nouvelle saison de progrès de l'Évangile? Amen, nous le croyons. Nous le croyons. L'Église naît du Saint-Esprit. Nous sommes régénérés par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de lui et de sa puissance pour que l'Église ici brille dans cette ville. Et lorsque le Saint-Esprit est là, eh bien on voit ensuite tout un tas de choses qui vont se passer dans cette Église de Jérusalem. La première chose, c'est dès la fin du chapitre 2, regardez ce qui se passe à partir du verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Croissance numérique. Ils étaient 120 dans la chambre haute, peut-être un cercle plus large de 500 si on en croit les épîtres. Et là, tout à coup, ils passent à 3000, sans compter probablement tous ceux qui sont repartis. On imagine, il y avait tout à coup des lieux qui commencent à apparaître dans tout l'Empire romain, de quelques juifs qui n'ont pas tout compris. On voit que plusieurs fois l'apôtre Paul va devoir passer et refaire le travail derrière, mais en tout cas qui commencent à démarrer des églises là où ils sont. Et puis, alors qu'ils sont là, regardez ce que nous dit Luc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Première conséquence d'une Église qui est remplie de l'Esprit, c'est qu'on voit cette Église qui vit une vie de piété intense dans l'Écriture, dans la prière, dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, ce n'est pas simplement passer des bons moments ensemble. C'est vivre tous ces textes les uns les autres. Je crois que vous avez eu un week-end d'église là-dessus. C'est ça la communion fraternelle, porter les fardeaux les uns les autres, confesser ses péchés les uns aux autres, se pardonner les uns les autres, ne pas se mordre les uns les autres. Et vous avez tous ces textes-là qui s'ajoutent ensemble. La piété, ce n'est pas simplement la spiritualité. C'est plutôt un mode de vie conduit par l'esprit. Aujourd'hui, on dirait un lifestyle. C'est un style de vie qu'il y a là. C'est la sagesse de l'Ancien Testament dans les Proverbes. On voit qu'elle illumine tous les domaines de la vie. La piété ne touche pas seulement la spiritualité, mais elle touche aussi les relations. Vous avez vu, ils mettent en commun, ils se portent les uns les autres. Ça touche aussi l'argent. Et c'est d'ailleurs intéressant, quand Jésus a fait son discours dans le sermon sur la montagne, il a associé la spiritualité, les relations et l'argent comme trois marqueurs de la piété. La piété, c'est la loi de Dieu qui est écrite dans le cœur et qui déborde de nous par tous les domaines de notre vie. Et on voit que tout à coup, ces gens, eh bien, ceux qui ont des propriétés, alors certains les vendaient, mais on voit que ce n'était pas une obligation. Hein. Plus tard, quand Pierre va reprendre Ananias et Saphira, il va leur dire, vous auriez très bien pu garder la moitié pour vous et être vrai en donnant que la moitié. Il y avait une gestion propre qui était conférée à chacun, mais on voit que chacun sur son petit royaume humain, eh bien, tout à coup le met au service du grand royaume de Dieu. On a tous un royaume, un petit périmètre sur lequel c'est notre volonté qui décide. Ça fait partie de notre identité en tant qu'homme. On a été créé pour être des rois prêtres sur cette terre, c'est-à-dire pour gérer la création pour Dieu. Et chacun, que ce soit dans notre famille, nos biens, notre patrimoine, notre travail, il y a des choses sur lesquelles nous avons autorité. Et ces choses-là, est-ce qu'elles servent à construire notre empire, ou alors est-ce que c'est un royaume qui est au service du roi des rois? C'est une vraie question. Et cette église, elle était pieuse dans sa spiritualité, dans ses relations et dans sa manière de gérer les affaires du royaume. Quelque part, elle était en train de vivre les lois que le temple dans l'Ancien Testament aurait dû vivre. Relisez Deutéronome 14 et 15 et vous verrez qu'il était déjà question d'amener ses offrandes, de partager avec l'étranger qui était au milieu d'eux. Et eux commencent à le vivre alors que l'ancien temple ne le vit plus. L'esprit est en train de former le nouveau temple. Un temple où le plus important, c'est les gens avant les biens. Et donc les biens sont mis au service des gens, de la communauté, pour qu'elles grandissent dans la piété. Est-ce que notre Église est pieuse? Est-ce que lorsque nous voyons comment les premiers chrétiens vivaient, nous regardons notre Église et nous disons « Ouais, ça va ». Ou alors est-ce qu'au contraire, on se dit « Seigneur, si vraiment on est le temple, l'endroit sur cette terre de la rencontre avec Dieu, parce que le Saint-Esprit vit en nous, en fait, nos vies ne sont pas consacrées comme elles devraient. » Et si peut-être nous nous disons cela, et Dieu sait que pour ma part, je me le dis souvent, eh bien, ça devrait nous pousser à la repentance, à dire, mais ma vie, elle n'est pas comme ça. Le mendiant, le pauvre, je le croise dans la rue et moi, il m'énerve. Je dois dire, Seigneur, pardon. Je dois confesser cela pour que le Saint-Esprit vienne changer, nettoyer, transformer et que ma vie puisse être un témoignage vivant du royaume de Dieu. J'entendais l'histoire il y a quelques semaines de l'église de Corée et jusqu'à 1885, il n'y avait pas d'église en Corée. Il y avait eu peut-être au Moyen-Âge quelques moines catholiques qui étaient passés par là, mais ça fait longtemps que l'église était éteinte. Et en l'espace de 130 ans, à peu près un quart du pays est devenu chrétien. Et on se dit, mais comment c'est possible? Et à plusieurs reprises, l'église de Corée, toute dénomination confondue, a été visitée par des temps de réveil où Dieu a permis à ce que l'église revienne à genoux, cherche la dépendance du Saint-Esprit. Et Dieu leur a fait grâce et cette église a grandi encore et a vécu cette réalité d'être le temple, l'endroit où les gens pouvaient rencontrer Dieu. Et une des choses, quand il est demandé à l'église coréenne, mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi est-ce que les gens étaient attirés comme ça dans les églises? Une des choses que les Coréens répondent, c'est bah, en fait, vous savez, pendant le réveil, il y avait une chose qui se passait dans les églises, c'est que n'importe quel pauvre autour savait que s'il venait à l'église, il y aurait à manger pour lui. Et en fait, ils ont eu toutes les couches populaires dans une nation qui était à l'époque dans les 10 nations les plus pauvres de la planète, qui aujourd'hui est plutôt dans les pays riches, la Corée du Sud. Eh bien, il y a eu tous les gens des classes populaires qui en fait ont afflué vers les églises. parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas jugés et qu'on subviendrait à leurs besoins, indépendamment qu'ils deviennent chrétiens ou pas. Et c'est ce qui a permis en fait à l'évangile ensuite de se diffuser et à des masses entières de se tourner vers Jésus. Une église qui manifestait cette piété, la présence de Dieu sur terre, ce temple, l'endroit où on peut rencontrer Dieu, être touché par sa bonté, entendre sa parole. Ensuite, on voit que cette église qui était pieuse, elle avait foi en la puissance de Dieu. Regardez Actes chapitre 3, une journée ordinaire. On sait que juste avant, ils étaient au temple tous les jours. Et puis ce jour-là, alors qu'ils vont au temple comme tous les autres jours, il était 3h de l'après-midi, l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait là tous les jours, jusqu'à la porte du temple. Donc si vous entendez tous les jours, ça veut dire qu'en fait tous les jours, ils croient cet homme. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est une journée ordinaire. Pourtant ce jour-là, dans le quotidien de leur vie, eh bien Dieu va agir différemment. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône, probablement qu'il le faisait déjà tous les jours. Et là, Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit se lever. Cet homme va être guéri et dans la foulée, tous les gens vont arriver, ils vont regarder Pierre et Jean en se disant « Mais... est-ce que c'est eux qui ont fait ça? Comment ça se passe ?» Et Pierre va leur dire « Mais regardez pas nous comme si c'était nous hein !» C'est la foi qui a rendu cet homme. Et certaines versions en français le rendent un peu mieux. C'est la tobe qui le rend le mieux. La foi que donne Jésus a rendu à cet homme la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce que Paul décrit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Hein, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun. Et donc peut-être que des fois tu es en train de prier pour ton église et tu dois faire la présidence et Dieu va te donner une conviction forte. Tiens, j'attends que tu partages ça à l'église, une parole d'enseignement. Parfois à d'autres c'est un discernement. Et ce jour-là pour Pierre, eh bien, c'était la foi. Il était là devant cet homme et tout à coup, eh bien, l'apôtre Pierre est convaincu, Dieu veut guérir cet homme. Alors quand on n'est pas convaincu, on ne fait pas semblant de l'être parce que sinon on décrédibilise le message. Et ce jour-là, Pierre était convaincu. On se remémorait avec un frère, il y a quelques jours, l'histoire de Georges Müller, le fondateur de notre famille d'église, qui par la foi, vous savez, a nourri des centaines, des milliers d'orphelins dans l'Angleterre de la révolution industrielle. Et j'aime cette histoire où Georges Müller, à la fin de sa vie, après avoir servi les orphelins pendant des dizaines d'années, il a commencé ensuite à faire des tournées dans le monde entier, il prêchait l'évangile et puis derrière, ils implantaient des églises. Et un jour, il était au milieu de l'océan, en route pour les États-Unis, et il devait arriver parce qu'il avait une conférence quelques jours plus tard, et puis il y avait une tempête, et tout le monde commençait à avoir peur dans le bateau, et le capitaine vient le voir, et il dit « Écoutez, monsieur Müller, la conférence, va falloir oublier, on n'y sera jamais à temps, il faut qu'on change le plan de navigation, et tout ça. » Et puis Georges Müller, il dit « Écoutez, on va garder la conférence, mais d'abord on va descendre, on va aller prier. » Et puis il va prier dans la cave avec le capitaine du bateau, et Georges Müller prie, et puis il demande ensuite au capitaine de prier. Et cet homme, visiblement, qui avait une spiritualité de façade, commençait à bafouiller, il ne savait même pas vraiment comment prier. Et puis Georges Müller le regarde et lui dit « Écoutez, arrêtez de prier, d'abord parce que, un, vous n'y croyez pas, et deux, Dieu a déjà répondu, sortez, tout va bien. » Et puis le capitaine raconte qu'il remonte, la tempête s'est arrêtée. Et Georges Müller avait cette conviction, cette foi que sa prière avait été entendue. Et plus tard, le capitaine rapportera cela et dira « La prière de Georges Müller était simple comme celle d'un petit enfant. » Il n'avait pas braillé partout, il n'avait pas fait de grandes prières. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit lui avait donné la foi. « Je t'attends à cette conférence, la tempête ne va pas t'arrêter, tu vas là. » Et probablement qu'il a juste dit « Père, s'il te plaît, je dois être là demain. Peux-tu arrêter cette tempête ?» Ça, c'est ce qui arrive lorsque une église est remplie de l'Esprit. Parfois, on a des gens comme ça qui ont un discernement. Moi, je me souviens à Saint-Étienne, local que l'on avait avant, on était en train de faire des travaux. Et il y avait ce frère, il disait, tu sais Philippe, là, le sol, il faut vraiment faire bien. On va mettre le parquet, mais en dessous, on va mettre de la moquette, il faut que ça soit super. Parce qu'après, les petits, là, quand ils vont par terre, je regarde, je lui dis, mais il n'y a que des étudiants dans cette église, il n'y a pas un seul enfant. Puis il dit, non, mais fais-moi confiance. 5 ans après, on avait 20 bambins qui couraient dans cette salle. Et qui serait néparté. Souvent, je pensais à ce frère et je disais, mais merci. Parce qu'il a vu ce que l'église allait devenir, une église de famille, avant que d'autres le voient. Dieu lui avait parlé. Que Dieu nous donne des gens qui ont des visions, qui ont le sens du discernement, qui ont la foi pour aller là où l'évangile n'est pas, et que la puissance de Dieu se manifeste. L'Église n'avait pas peur de prier pour cela. On l'a lu tout à l'heure dans Actes 4. Maintenant, Seigneur, donne-nous du courage et qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges. J'avais fait pour France Évangélisation un mémoire sur la conversion dans le livre des Actes. Et alors, si vous cherchez toutes les allusions des conversions, vous en avez une trentaine. Et ce qui est étonnant, c'est que la moitié des cas, eh bien, vous avez une allusion à quelque chose de miraculeux, ou alors l'Église qui montre quelque chose, des gens qui étaient touchés par quelque chose qu'ils voyaient, des vies transformées. Dans tous les cas, vous avez toujours la parole de Dieu. Attention, la démonstration de l'évangile ne remplacera jamais l'annonce de l'évangile. Par contre, souvent, Dieu se plaît à confirmer sa parole par des choses extraordinaires. Et ça commence déjà par des vies transformées. Quand vous avez quelqu'un qui est passé par la casse-prison, dont la vie était dévastée, et qui du jour au lendemain, sa vie est transformée, et il part implanter une église en Haute-Loire, vous dites, ouais, Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Et souvent, les gens sont touchés. Ce frère dont je parle, Olivier, qui implante en ce moment l'église à Saint-Jean, il suffit qu'il prenne sa guitare, il donne son témoignage, et on voit des gens venir à Jésus. Parce qu'ils disent, mais oui, Dieu fait vraiment des choses incroyables. Ça touche les autres. L'église des Actes n'avait pas peur de prier pour cela, et dans l'histoire, on voit parfois des élans de prière comme cela. 1857, le 21 septembre, un homme d'affaires, ce n'était pas un pasteur, Jérémie Alempire, démarre des réunions de prière à New York du temps de midi, avec quelques collègues. On va prier pour que Dieu agisse. C'était en septembre et au début de l'année suivante, tout à coup on se rend compte que ces réunions regroupent des centaines de personnes. Les journaux commencent à en parler et on dénombre des rencontres de prière à plus de 6000 personnes à New York et dans la ville voisine de Pittsburgh. À Washington, des réunions de prière journalières commencent à avoir lieu à 5 horaires différents pour gérer la foule. 6 mois plus tard, 50 000 personnes, soit près des 8% des New-Yorkais de l'époque, s'étaient tournées vers le Christ, et c'était le début du second grand réveil aux États-Unis. C'est pas incroyable? Un pays transformé en un an, parce qu'un homme d'affaires s'est dit « j'en ai marre, ça va pas, j'en ai marre de voir le péché partout dans cette ville, on va rassembler quelques collègues, peu importe ce que les autres font, moi on me trouvera à genoux le midi en train de prier ». Commence. C'est une vraie question. Est-ce que nous avons soif que Dieu intervienne? Avec le CNEF, nous avons écrit ce texte sur la mission et nous avons écrit l'étendue de la mission que le Christ nous confie, l'ampleur de notre faiblesse, la réalité du péché en chacun de nous, ainsi que les tactiques de l'adversaire nous conduisent à genoux. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Prions. Oui, nous prions ensemble. Père, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais de nous des témoins fidèles, unis par l'amour du Christ. Suscite un réveil dans ton Église et dans notre pays. C'est ce que nous voulons. L'Église de la Pentecôte, elle était pleine du Saint-Esprit. Elle vivait la piété, elle avait foi dans la puissance de l'Évangile. Elle annonçait la bonne nouvelle. Et on le voit avec ses prédications à répétition. Et puis c'était une Église qui tenait ferme dans la souffrance. Si vous lisez les Actes, vous verrez que chaque page est accompagnée de souffrances et de tribulations, comme c'est le cas dans l'histoire de l'Église. Peut-être qu'à Lyon, vous avez déjà étudié l'histoire chrétienne de Lyon. Je crois qu'il y a régulièrement des visites qui sont faites pour étudier le vieux Lyon. Et vous savez ce qui arrivait à Blandine, et ce qui arrivait à l'évêque Plotin, ce vieil homme dans sa vieillesse qui était frappé, battu et qui mourra quelques jours plus tard dans sa cellule. Et pourtant, c'est de Lyon ensuite que les missionnaires sont partis et ont évangélisé toute la Gaule. Si vous allez en Auvergne, vous trouvez le fromage Saint-Nectaire, mais qui nous rappelle que Nectaire était l'évangéliste du pays Arverne. C'est lui qui a évangélisé toute la région du Mont d'Or. Et puis vous avez Ostremoine à Clermont-Ferrand. Et puis vous allez à Paris et vous avez l'histoire de Saint-Denis, premier évêque de Paris. Et on l'a tué sur la colline et qu'on appelle aujourd'hui Montmartre, le mont des martyrs. C'est là où ils ont tué Saint-Denis. Et on se dit, mais la christianisation de la Gaule ne s'est pas faite sans souffrance. L'Église était prête à souffrir. Je vous parlais tout à l'heure de Wesley, à qui on envoyait des poivrons perturber ses réunions, on lâchait le taureau sur lui. Et pourtant, des milliers de personnes à genoux acceptaient l'Évangile. Quel est le point commun dans les réveils, comme dans l'histoire de l'Église? C'est que les apôtres n'ont pas dit, « Seigneur, ils sont un peu durs avec nous, s'il te plaît, arrête-les. » Ils ont dit, Seigneur, vois ce qu'ils nous font et donne-nous de la hardiesse. Donne-nous de la hardiesse. Moi, ça me marque souvent de me dire, mais finalement, quand je dois annoncer l'évangile, il y a deux choses. C'est d'un côté la soif que des gens se convertissent, et de l'autre côté la peur qu'il m'arrive des problèmes. Vous avez ça, vous aussi? Vous connaissez ça? Oui, Seigneur, lui, si je lui parle, je sais déjà que ça ne va pas le faire. Et on voit ça. Vous relisez acte 3, vous voyez la guérison du boiteux. À la fin, le nombre des croyants monte à 5000. Et puis les gens finissent en prison. Et les deux, ça marche ensemble. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance de nos choix? Est-ce que c'est l'envie que des gens rejoignent le Christ qui pèse le plus lourd? Ou est-ce que c'est la peur de souffrir? Et tant que ce sera la peur de souffrir, en fait, je me tairai. Mais le jour où l'envie que des gens rencontrent le Christ commence à peser plus lourd que la peur de souffrir, à ce moment-là, je deviens inarrêtable. Vous voyez l'idée? Et le problème, c'est que si ça dépend de moi, la peur de souffrir pèsera toujours plus lourd. Pourquoi Pierre a renié Jésus? Parce qu'il avait peur de souffrir. Mais si ça dépend de lui, alors c'est la soif d'annoncer l'évangile qui pèse le plus lourd. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Dire, Seigneur, sans toi, j'y arriverai jamais. Parce que la nature humaine est peureuse. Et l'évangile nous dit que nous n'avons pas simplement un évangile qui nous justifie, mais nous avons aussi un Saint-Esprit qui nous libère de nos peurs. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais de force, dit Paul à Timothée. Ranime la flamme, arrête d'avoir peur, souffre avec moi. Seigneur, fais-nous grâce. L'Église tenait ferme dans la souffrance, elle tenait aussi ferme face au péché. Alors qu'ils vivent le temple, Deutéronome 14-15, certains ont envie de corruption, Ananias et Saphira. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui, nous on veut faire comme les autres. En ce moment dans l'église, il y a le réveil, hein, c'est la nouvelle mode. Chacun donne de son argent. Pierre, on a tout vendu, voilà tout. Puis Pierre, visiblement, le Saint-Esprit lui donne un peu de discernement. Et... Ananias, t'as cru que t'allais mentir à qui là? Fin d'acte chapitre 4. Ananias va tomber, mourir. Heureusement, Dieu ne nous traite pas comme ça toutes les fois où nous sommes faux et dans la duplicité. Saphira aussi. Il est dit que la crainte de Dieu s'empara de toute l'Église. Est-ce que nous osons adresser le péché dans nos assemblées? Quand nous savons, là, il y a quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on le met sous le tapis? Ou est-ce qu'on se dit, attention, hein, Dieu, il sait tout. Il voit tout. Et on remarque souvent quand le Saint-Esprit agit, que l'Église est pleine et que les gens tout à coup commencent à être touchés par la puissance du Seigneur et qu'ils voient des conversions, etc. Au même moment, eh bien, la crainte s'installe. Parce qu'on se dit, mais en fait, si Dieu peut agir de telle façon, ça veut dire qu'il peut aussi me toucher moi, qui en ce moment n'est pas une vie rangée. Et donc c'est l'occasion de nous pousser à la repentance et qu'il puisse nous remplir. Puis la dernière chose qu'on voit de cette Église de Jérusalem, c'est dans Acte chapitre 6, alors qu'elle a tenu au problème de la souffrance, au problème du péché, tout à coup arrive un problème, il y a une bagarre dans l'Église. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples continue à augmenter, les hellénistes, c'est-à-dire les juifs d'origine grecque, murmurèrent contre les hébreux, les juifs d'origine hébraïque, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Qu'est-ce qui se passait? C'est que les juifs grecs reviennent à Jérusalem pour y mourir. Ils meurent là parce qu'ils ont envie d'être enterrés sur le mont des Oliviers, comme aujourd'hui, parce qu'ils croient que quand le Messie viendra, c'est là en premier lieu que les morts ressusciteront. Donc on a envie d'être là pour être les premiers. Et le problème, c'est qu'ils meurent, ils laissent leurs veuves derrière eux, et leurs veuves se retrouvent à la charge de la communauté. Et donc au bout d'un moment, les autres disent « ça commence à bien faire », donc ils les négligent un petit peu. Et puis les enfants disent « c'est pas juste ça ». Les mamans des Hébreux, on prend soin d'elles. Et puis parce que nous, on est des Juifs d'origine grecque, qu'on a migré ici, on prend pas soin de nous. Et qu'est-ce que vont faire les apôtres? Eh bien, après avoir prié, leur réponse à ce problème, ça va être de nommer des nouveaux responsables. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute Église qui est remplie de l'Esprit, c'est que personne n'a tous les dons à lui tout seul. Et que face aux problèmes, face aux besoins que suscite la croissance, face au combat de l'Église, eh bien le Saint-Esprit va équiper des nouvelles personnes. Et ce qui est incroyable dans ce texte, c'est qu'ils ont pris des gens remplis d'esprit et de sagesse, mais si vous regardez leurs prénoms, vous verrez qu'ils ont tous des noms grecs. Ça veut dire qu'ils ont été choisis dans la communauté des râleurs, ceux qui murmuraient juste au-dessus. Ce n'est pas des noms hébreux. Hein. Donc ceux qui se plaignaient que leur veuve était délaissée deviennent la solution au problème. Et ça, j'ai remarqué, et peut-être ceux qui sont anciens ou qui ont été anciens dans l'Église l'ont déjà vu aussi, c'est que dans l'Église, vous avez deux types de râleurs. Vous avez certains râleurs, ils vont râler tout le temps, quoi qu'il se passe. Et parfois, ceux-là, il va falloir les discipliner, lui dire, mon frère, ma sœur, il faudrait quand même qu'un jour, tu te poses des questions sur la façon que tu as de critiquer la direction de l'Église. Peut-être qu'il y a des choses à revoir. Mais on aurait tort de mettre tout le monde dans la même catégorie. Parce qu'il y a un deuxième type de râleur dans les Églises. C'est ceux à qui Dieu a ouvert les yeux avant nous sur un problème manifeste dans l'Église. Et parfois, les responsables ne l'ont pas vu. Parce qu'on a tous des angles morts. On a des angles morts culturels, générationnels, issus de nos milieux sociaux, notre histoire personnelle, etc. Et on ne voit pas. Et vous avez cette personne qui, à chaque réunion de prière, vous repropose le même sujet. Et à chaque fois, à la fin de culte, elle vient vous voir, elle dit « Mais quand c'est qu'on fait quelque chose avec ça ?» Et elle ne vous laisse pas tranquille, et elle vous embête, et à tel point, vous dites « Mais on en a marre, celui-là, il nous casse tout le temps les pieds. » Je pense que les hellénistes devaient ressembler à ça. Ils murmurèrent. Ça allait loin, hein ? Et pourtant, c'est dans cette communauté-là que Dieu va susciter la prochaine génération de leaders. Et donc, moi, j'encourage ceux qui sont en position à vous dire, je ne sais pas quels sont les défis aujourd'hui auxquels vous faites face, et de vous dire, alors même que vous vous demandez comment Dieu va les résoudre, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peut-être ont vu des choses que vous ne voyez pas ? Et ces gens-là, il va falloir les accompagner, les équiper, parce que c'est eux qui vont amener l'Église plus loin. Et non seulement plus loin, mais vous verrez que Étienne, ensuite, va amener une nouvelle croissance dans l'Église, et Philippe sera celui qui va porter l'Église de Jérusalem jusqu'à la Samarie et jusqu'à Césarée. Ça va être les premiers missionnaires qui seront envoyés, alors par la persécution, mais en tout cas qui va quitter Jérusalem quand les apôtres vont rester là. Si tu vois des problèmes dans l'Église, ne va pas jusqu'à murmurer, mais ose le dire. Parce que peut-être que le Saint-Esprit qui t'habite est en train de pointer quelque chose que même les responsables n'ont pas vu. Et va leur dire, avec un peu de chance, tu seras écouté avant même d'avoir besoin de murmurer. C'est ce qu'on souhaite dans une église qui convient. Et parfois, si on est frustré, eh bien, soyons patients, prions pour que Dieu ouvre les yeux des autres qui n'ont pas encore vu ce qu'il nous a donné de voir. Une église pleine de l'esprit, qui vivait une vie de piété extraordinaire, qui avait foi dans la puissance de Dieu, qui témoignait de l'évangile, qui tenait ferme dans la souffrance et face au péché, et qui était prête à multiplier les leaders, pour eux, mais pour plus loin, puisque d'autres vont servir la mission. Est-ce que votre église brille à Lyon ? Je crois que oui. Je crois que oui. Régulièrement, j'entends des gens, « Ah, moi je viens de Sonnera, c'est là-bas que je me suis converti. C'est là-bas que Dieu m'a formé. » Est-ce que votre église pourrait briller davantage pour qu'un jour, toutes les nations de la terre soient devant le Père ? Probablement que oui aussi. Et pour ça, nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vous invite à prier. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de cette église de Jérusalem. Cette église qui brillait dans la ville, non pas de ses performances ou de ses caractéristiques humaines, mais qui brillait parce qu'elle était pleine, pleine du Saint-Esprit. Seigneur, c'est ma prière pour mes frères et sœurs ici. Ma prière pour moi-même et pour ton église ici à Lyon, dans toute notre région. Et dans toute la France, Seigneur, que tu souffles sur ton Église et que tu nous donnes de vivre ces temps où tu te plais à visiter ton Église et à susciter quelque chose de nouveau. Seigneur, comme nous l'avons dit dès le début, nous ne pouvons pas le créer, nous ne pouvons pas le produire. Tout ce que nous avons à t'offrir, c'est nos cœurs qui languissent de toi et qui ont soif de voir ton œuvre. Seigneur, nous avons soif de voir des gens qui se tournent vers toi. Soif de voir cette ville transformée par la puissance de l'Évangile. Soif de voir des réconciliations entre les personnes, entre les responsables, de telle sorte que l'Église apparaisse comme une même entité et que lorsque le monde regarde, il dit « Waouh, Qui sont ces gens? C'est quoi? C'est cette communauté qui a tellement de joie au milieu de la tristesse, qui apporte la paix là où il y a les conflits, qui amène des solutions concrètes, pratiques, qui viennent du cœur même des gens, là où il y a la souffrance et les problèmes. Seigneur, nous avons soif de voir cela. Nous prions pour cette ville de Lyon, qui dans le passé a envoyé des évêques évangéliser toute la Gaule. Seigneur, ma prière, c'est que tu le fasses encore. Et que dans cette église même, que l'église s'affermisse, grandisse, et qu'il y ait des missionnaires qui se lèvent pour aller dans les endroits de France où il n'y a pas encore de témoignage fidèlement établi, pour aller à l'étranger soutenir ceux qui sont dans le champ de mission et qui cherchent à atteindre ceux qui n'ont encore jamais entendu l'évangile. Seigneur, nous prions pour que tu interviennes dans ton église. Merci pour les choses que tu fais déjà. Merci pour les structures qui sont en place, pour les ministères des enfants, pour le groupe de jeunes, pour le nouveau bâtiment qui arrive. Merci pour tous ceux qui, dans leur travail, font un témoignage fidèle jour après jour et que tu veux utiliser là où ils sont. Et Seigneur, je te prie que sur toutes ces belles choses que tu as bâties, eh bien que tu souffles encore pour accueillir la vie dans les prochaines saisons de ce que tu veux faire ici. Seigneur, nous prions pour plus de lieux de culte dans la ville de Lyon, plus d'implantations d'églises, qu'il y ait plus d'endroits où les gens puissent voir des églises près de chez eux et les rencontrer. Nous prions pour toute la région, pour ces endroits autour, dans les campagnes où il n'y a pas de témoignage chrétien. Seigneur, pour que ton esprit prépare les cœurs et que tu envoies des ouvriers afin qu'ils puissent entendre l'évangile. Seigneur, donne-nous d'avoir une plus grande vision de toi, une plus grande passion pour toi et utilise-nous pour ta gloire, chacun pour notre part. Amen.